Deuxième série, chapitres 5 et 6. Ici commence le sujet propre du prophète, dont la préface n'est qu'un aperçu. Ces deux chapitres décrivent l'iniquité de l'ensemble du peuple comme vigne de l'Éternel et les jugements qui fondront sur lui. La vigne sera dévastée, mais un petit résidu, dont Ésaïe est le type, sera sauvé à travers la repentance et le jugement de soi. Chapitre 5, versets 1 à 7. L'Éternel juge sa vigne, c'est-à-dire Israël, sur le principe de ce qu'il a fait pour elle et du fruit qu'elle devrait rapporter après tant de soins. Rien n'avait manqué à ses soins. Ils avaient été parfaits et complets. Aussi sera-t-elle complètement détruite. Six malheurs sont prononcés contre les différents caractères de l'iniquité. Versets 8 à 10. Premier malheur, sur la convoitise et l'ardeur à acquérir et tout garder pour soi. Ce malheur est la diminution de la population et la disette. Versets 11 à 17. Deuxième malheur, sur l'ivresse et les plaisirs du monde. Le malheur consiste en la captivité, la famine et la soif. Enfin, le sépulcre et le juste jugement. Versets 18 et 19. Troisième malheur, sur ceux qui font le mal sciemment au mépris de Dieu et de son jugement. Verset 20. Quatrième malheur, sur ceux qui confondent le mal et le bien, la lumière et les ténèbres, la douceur et l'amertume. Verset 21. Cinquième malheur, sur ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et de leur intelligence. Versets 22 et 23. Sixième malheur, sur ceux qui emploient leur énergie pour s'enivrer des choses du monde, qui se font les défenseurs du mal qui leur profite et qui noircissent ceux qui font le bien. La colère de l'Éternel s'est embrasée contre eux, et le jugement de Dieu les consumera ainsi que toute leur gloire. Verset 24. Les quatre derniers malheurs des versets 18 à 23 consistent dans la colère de Dieu, le feu consumant du jugement tombant sur ces hommes et sur toute leur gloire. Versets 24 et 25. La colère de l'Éternel s'est embrasée contre eux, et, pour tout cela, cette colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. Voyez les versets 9, 12, 17 et 21. Versets 26 à 30. Cette colère se donne cours dans l'invasion de l'Assyrien, verge de sa colère. Voir chapitre 10, verset 5. Chapitre 6. Ce chapitre se relie au précédent par la mention d'un septième malheur. Mais il s'agit d'un autre principe de jugement. Les malheurs précédents sont prononcés sur ce qu'Israël a fait, étant déchu de la bénédiction première. Ici, le dernier malheur est prononcé sur ce que l'homme, et le meilleur, est devant le Dieu saint. C'est le malheur sur le « moi ». Note 1. Disons en passant que nous trouverons au chapitre 28 à 33 six autres malheurs précédés, mais non suivis comme ici d'un septième malheur. Malheur à moi, chapitre 24, verset 16. En Matthieu 23, le Seigneur profère sept malheurs sur les conducteurs du peuple, mais suivi du « béni soit » du verset 39, prononcé sur ce même peuple, acclamant la grâce dans la personne du Sauveur, alors que ses conducteurs maudits le conduisaient à sa perte. Ces sept malheurs remplaçaient les neuf bénédictions de Matthieu 5, neuf, trois fois la plénitude divine, dont les chefs n'avaient pas voulu. Fin de la note. Au chapitre 5, ce sont les suites de la rébellion contre l'Éternel. Ici, qu'allait devenir l'homme, fut-il le moins coupable, fut-il un prophète quand il rencontrerait Dieu? Pourrait-il dire autre chose que « malheur à moi, car je suis perdu » De fait, c'est là la première en date des prophéties d'Ésaïe, et cela aussi a son importance capitale. Note 2. Date des prophéties dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1, chapitre 7, verset 8, chapitre 14, verset 28, chapitre 20, verset 1, chapitre 36, verset 1. Fin de la note. Dès le début, l'homme est absolument condamné. Le résidu même, dont Ésaïe est un type, ne mérite pas autre chose que la condamnation. Ce chapitre est en même temps le début d'une parenthèse qui se termine au chapitre 9, verset 7. Au verset 12 de ce chapitre 9, le prophète reprendra, comme nous le soulignons plus haut, la parole du verset 25 du chapitre 5. Pour tout cela, sa main est encore étendue, et la répète au verset 17, 21 et chapitre 10, verset 4. Outre sa transposition dans le but que nous avons indiqué, cette parenthèse nous présente le Messie, sa réjection par les Juifs et la bénédiction sous son règne futur. Après ces remarques générales, reprenons en détail cet intéressant chapitre. Versets 1 à 7. La vision est de la gloire du royaume de Christ sur la terre. Le trône n'est pas dans le ciel, mais au-dessus de la terre. Seule la manifestation de cette gloire est dans le temple sur la terre, le lieu saint, non pas le lieu très saint. Les séraphins sont dans le ciel au-dessus de lui. C'est Christ, homme, exalté comme roi, chef de l'armée des cieux, adoré par les séraphins. Les créatures les plus élevées proclament la sainteté de Christ, roi, le Dieu d'éternité, le Créateur. Les séraphins, littéralement les brûlants qui volent, se couvrent la face. Et un homme serait appelé à voir sa gloire à face découverte? Oui. Mais il faut auparavant le « malheur à moi » et le « je suis perdu ». Aussitôt, toute impureté disparaît, même des lèvres du croyant, par le jugement dont le feu a consumé l'Holocauste et ne peut plus avoir qu'à consumer toute iniquité chez le croyant. Il fallait qu'il eût conscience du feu du jugement sans en être atteint, car tout ce qu'il était avait déjà été consumé dans la victime, sur l'autel. Versets 8 à 13. Maintenant, le prophète est capable de dire, comme son maître, « Me voici, envoie-moi ». Quand le Seigneur demande, « Qui enverrai-je ? » Le message au peuple est que son endurcissement est un jugement de Dieu. Jean 12, versets 37 à 41. Mais la foi peut dire, « Jusque à quand ?» C'est le mot du résidu dans les psaumes. Certaine que le Seigneur ne peut demeurer sur le jugement. Alors trois choses sont révélées au prophète. Premièrement, la désolation et la solitude actuelle comme jugement de Dieu. Deuxièmement, un dixième rentrant après la captivité, mais pour être brouté de nouveau. Troisièmement, enfin un tronc qui reste, une semence sainte, le résidu croyant formant le noyau d'un peuple nouveau. Ainsi, la foi compte sur la fidélité de Dieu. Et Dieu répond, il y aura un résidu. Pensée de J.N. Darby.